L'invité du jour.
Les obsèques du pape François se dérouleront ce samedi à 10h, place Saint-Pierre, devant la basilique du même nom. C'est ce qu'a annoncé le Vatican. Les cardinaux, qui auront aussi la lourde tâche d'élire son successeur dans quelques semaines, étaient convoqués ce mardi pour une première congrégation générale, à l'issue de laquelle ils ont communiqué cette date avant les funérailles. Le cercueil du pape, mort lundi à 88 ans, sera exposé à partir de mercredi 9h à la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. À l'annonce de la mort du pape François, la grande mosquée de Paris a tenu à saluer l'homme de foi qui a toujours plaidé le secours aux plus vulnérables. Je vous propose d'écouter le recteur de la grande mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz.
Très triste, parce que c'est un homme, je pense, exceptionnel. Et puis, symboliquement, il décède le jour de la résurrection, hein, lundi de Pâques. Ce n'est pas anodin comme message. Et au-delà de cela, je trouve que c'est un homme d'une humanité exceptionnelle. Il va manquer à tout le monde, hein, bien évidemment aux chrétiens, mais également aux musulmans et à toute l'humanité, parce que pendant son pontificat, d'abord, il n'a cessé d'adresser des messages de fraternité aux musulmans. Dès qu'il a commencé son pontificat, lorsqu'il s'est adressé aux musulmans pour leur souhaiter une bonne fête du Ramadan, de l'Aïd, il s'est toujours exprimé en déclarant aux musulmans « mes chères sœurs et mes chers frères », ce qui était exceptionnel et pour la première fois au niveau d'un pape. Et puis, à chaque fois qu'il a été possible, il a toujours passé ses messages de fraternité, d'amitié à l'ensemble des musulmans. Moi, j'ai eu l'occasion, d'abord avant d'être recteur, en tant que vice-président du Conseil français du culte musulman, d'avoir fait partie d'une délégation qui avait été reçue à l'époque en 2018. Et puis, depuis que je suis recteur, j'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu à deux reprises par sa sainteté le pape, et notamment la dernière, c'était au mois de février, quelques jours avant son hospitalisation. Et à ce moment-là, d'abord, il était très souffrant. Je voyais que c'était compliqué de me faire recevoir, hein, le matin. J'avais rendez-vous à 8h, ça a été retardé, je devais être reçu dans sa bibliothèque privée, en fait j'ai été reçu dans sa résidence, et lorsque je suis entré dans son bureau, il s'est levé difficilement, il était bouffi, il haletait, il était vraiment très fatigué, mais malgré cela, je voyais qu'il faisait un effort considérable pour bien me recevoir. Il s'est excusé de m'avoir fait attendre. Vous imaginez, dans un moment où on est en souffrance et qu'il pense à s'excuser pour le retard, j'avais été très touché. Puis pendant l'échange, je lui avais proposé donc d'organiser des rencontres annuelles que j'avais intitulées les rencontres de Saint-Augustin, un peu comme les rencontres d'Assise qui étaient organisées. Et je voulais vraiment marquer cette fraternité entre chrétiens et musulmans et organiser des rencontres annuelles. Et je lui avais proposé que Paris reçoive cette première rencontre. Et il était tout à fait d'accord. Et j'avais pris attache avec l'archevêque de Paris, hein, Mgr Ulrich, et je devais en parler également au président de la Conférence des évêques pour qu'on puisse organiser cette rencontre d'ici la fin de l'année. Ça, c'était le premier message. Et puis, je lui ai offert une traduction du Coran qui avait été faite par l'un de mes prédécesseurs, le recteur Hamza Boubaker, et quand il l'a pris dans ses mains et il attendait la traduction pour qu'il comprenne ce que c'était, quand il a su que c'était un Coran, il l'a embrassé. Donc je trouve que des moments pareils, rares, je pense, les papes qui ont eu autant de signes de fraternité envers envers les musulmans. Donc voilà, c'est à la fois à titre personnel, puisque j'ai été un des derniers, non chrétiens à le rencontrer, puisqu'après il a été hospitalisé, on connaît la suite. Et en même temps, en tant qu'homme, je suis vraiment bouleversé, parce que je pense que dans le monde que nous vivons actuellement, un monde de division, un monde de guerre, de vindicatif, où on cherche à fracturer les sociétés, on le voit. Le pape était au-dessus de la mêlée, cherchait à chaque fois à rassembler, à rappeler que nous étions tous des créatures de notre Seigneur, et qu'il fallait que nous puissions d'abord préserver cette fraternité, puis regarder l'autre, faire en sorte d'éviter qu'il souffre. L'autre, c'est vraiment un exemple, et je pense et j'espère que nous pourrons tous ensemble continuer à perpétuer cette parole du pape François, qui, avec sa sagesse, avec cette vision qu'il avait de l'humanité, je pense qu'il démarquait par rapport à nos contemporains qui aujourd'hui sont dans une course contre celui qui essaiera de diviser le plus la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut considérer que c'était un acteur clé de la diplomatie spirituelle, justement, comme vous venez de l'indiquer, surtout dans un monde fracturé ?
Je pense qu'au-delà de la simple diplomatie, parce que si vous dites diplomatie, on vous l'enferme un peu, mais c'était un message universel. C'était un homme qui regardait... moi, je l'avais rencontré en 2022, une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il était extrêmement préoccupé, et je crois qu'il avait raison, puisque nous voyons encore aujourd'hui cette guerre qui sont sur les terres d'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à vivre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu ce genre de situation. Il était extrêmement préoccupé, il demandait à ce que chacun de nous puisse prier pour que cette guerre cesse, et on voit 3 ans plus tard que c'est toujours là, le spectre de cette guerre, avec des conséquences qui peuvent toucher toute l'humanité. Certains chefs d'État ont parlé d'une éventuelle troisième guerre mondiale, et c'est là où on voit à la fois le manque d'humanité de nos dirigeants qui ne voient que des intérêts particuliers, alors que sa sainteté le pape a toujours pensé à l'autre. Regardez, quand il est venu à Marseille, le discours complètement à contre-courant de ce qui se passait ici en France sur les migrants, sur cette Méditerranée qu'il chérissait tellement, et de rappeler que nous sommes là pour tendre la main à ces malheureux, parce que les migrants ne viennent pas pour le plaisir, ne traversent pas les frontières, n'essayent pas de venir aujourd'hui chez nous parce que ils sont bien chez eux. C'est au contraire, ce sont des malheureux qui fuient la guerre, la famine, les violences, etc. Et c'est pour cela que lui avait cette tendance à vouloir que chacun d'entre nous puisse penser à eux. Et donc voilà, à chaque fois qu'il s'est exprimé, même pour les enfants de Gaza, il a eu une posture extraordinaire par rapport à ce drame où, là aussi, peu de monde pense à ces enfants qui se font massacrer tous les jours. Et je crois que, et j'espère en tout cas, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ferai en sorte pour que son message continue à être perpétué après sa disparition.
Vous parliez de sa posture par rapport au conflit israélo-palestinien et au drame en cours à Gaza. Comment était-il perçu dans le monde musulman ?
Écoutez, dans le monde musulman, vous savez, il y a des clichés encore, parce que notamment pendant la guerre d'Algérie, pendant la colonisation, on a estimé que l'Église avait contribué à cette colonisation. Et puis, Aujourd'hui, l'histoire nous révèle quand même que l'Église, en tout cas d'Algérie, à un moment donné, compte tenu des massacres qui étaient perpétrés par l'armée coloniale, l'Église s'en est éloignée. Aujourd'hui, on voit les chefs de l'Église algérienne comme Monseigneur Duval, aujourd'hui Monseigneur Vesco qui a pris la nationalité, ont montré que l'Église catholique a toujours été aux côtés des plus vulnérables, aux côtés des nécessiteux, aux côtés des pauvres. Et je pense que le message de Sa Sainteté le Pape François au moment du conflit israélo-palestinien, son cri d'alarme a été en fait en direction des plus fragiles et ceux qui se faisaient massacrer à Gaza, les enfants, les vieillards, les femmes. Il a eu une position intransigeante sur ce point en disant qu'il ne pouvait pas laisser, cette humanité violée, cette humanité remise en cause pour des questions stratégiques, pour des questions politiques. Il a été là aussi à contre-courant. Il a été beaucoup critiqué sur ses postures parce que les positions dominantes n'étaient pas du tout, n'allaient pas dans ce sens. Et c'est là où on voit que le pape François n'était pas dans des postures où ne faisait pas de la politique politicienne. C'était d'abord un grand humaniste. C'est lui qui a été à Abu Dhabi pour signer ce fameux accord de la fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar. Il a été jusqu'en Irak rencontrer le Shir Sistani. C'est à lui, à chaque fois, qui a fait des gestes importants. Et tout cela montre que le chef de l'Église catholique était avant tout un grand humaniste. Et à nous, musulmans, ça rappelle quand même le verset coranique qui dit qu'avant de nous avoir envoyé le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu avait envoyé à d'autres peuplades, à d'autres contrées, des prophètes, des émissaires, des envoyés, auquel nous devons croire. Et aujourd'hui, Isa alayhi salam, ce sont des prophètes, des messagers qui sont les nôtres aussi. Et donc, voilà, il faut aujourd'hui, dans un moment pareil, en tant que musulmans, montrer, oui, nous sommes musulmans, nous croyons en Allah, mais en même temps, Al-Kitab n'est pas un vain concept, c'est les gens du livre, les gens qui nous ont précédés, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, eh ben, il faut rappeler aujourd'hui, à cette occasion, que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons peut-être des chemins différents pour accéder à la vérité divine, mais en même temps, voilà, nous sommes tous des créatures de Dieu, puisque Dieu, c'est lui qui décide qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Donc, ce sont des messages universels que nous devons rappeler, également, et montrer que l'islam, contrairement à ce qu'on veut faire croire, que l'islam est une religion d'universalisme, est une religion de tous les êtres humains.
C'était Shamseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris.
L'invité du jour.